Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un nouvel adolescent tué en pleine rue ce week-end à Châteauroux. Il avait 15 ans. Un mineur et sa mère ont été placés en garde à vue.
Et il était connu pour des faits de violence. Beaucoup de questions se posent autour de cette nouvelle agression. On en parle juste après votre journal avec un syndicat policier. Il est le témoin du jour.
À 3 mois des Jeux Olympiques, l'État tente de sauver Athos et se tient prêt à nationaliser les activités de défense et de cybersécurité. Et puis le PSG, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, le club de la capitale peut désormais rêver d'un quadruplé historique.
Une mère et son fils en garde à vue ce matin après la mort d'un adolescent à Châteauroux.
Mathis, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau en fin de journée samedi pour une raison encore inconnue. Le principal suspect, lui aussi âgé de 15 ans, était déjà sous contrôle judiciaire pour une autre agression une semaine plus tôt. Et sa mère pourrait avoir joué un rôle dans la mort du jeune Mathis ce week-end. Un drame auquel plusieurs habitants de ce quartier de Châteauroux ont assisté et qu'ils ont accepté de raconter au micro RMC d'Ameline Lafchin.
C'est au pied de son immeuble que s'est passé le drame. Marie-Mathilde était chez elle quand elle a entendu du bruit.
J'étais à la fenêtre et là j'ai vu un jeune homme à terre. Tout de suite je suis descendue aider. Il était blanc de chez blanc. J'étais choquée, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est quand on a soulevé le t-shirt et qu'on a vu les coups de poignard que là ça a été vraiment impressionnant.
Rapidement les secours interviennent mais l'adolescent décède au cours de la soirée. Depuis, cette mère de famille ne cesse d'y penser.
Je peine à rester là. Là c'est mentalement c'est très 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 dur.
Au rez-de-chaussée du même bâtiment, une autre voisine a elle aussi assisté à la scène.
J'en ai pleuré parce que c'est horrible hein, de voir le petit par terre comme ça, plein de sang. Moi, je pense aux parents des deux côtés qui doivent être dévastés.
La procureure de Châteauroux expliquait hier que l'agresseur présumé avait été mis en examen il y a une semaine pour vol aggravé avec violence. Connu de beaucoup dans le quartier, son implication n'étonne pas vraiment Fabrice.
Quand j'ai connu, il avait 13-14 ans, c'était un petit garçon qui était super gentil. Ça fait un an qu'il a complètement changé, même avec moi. Il se permettait d'hausser la voix, il voulait me taper. Dès qu'on a vu qu'il avait des soucis, c'est tout de suite qu'on aurait dû prendre soin de lui. Peut-être pas l'incarcérer, mais le mettre dans une maison où il ne puisse pas sortir, où on puisse s'occuper de lui.
Hier, on apprenait que sa mère avait également été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir joué un rôle dans cette affaire.
Et pour en parler, juste après ce journal, Apolline recevra Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. De son côté, le maire de Châteauroux a réagi dans un communiqué. Il réclame une peine exemplaire et dénonce cette ultra-violence, dit-il, qui gangrène notre société. Ce sera justement le cœur du sujet des consultations menées à partir d'aujourd'hui par le Premier ministre Gabriel Attal, qui va recevoir les représentants de tous les partis politiques pour tenter d'endiguer la violence chez les jeunes. Il est 7h02 sur RMC. L'Île-de-France est prête comme jamais pour les Jeux Olympiques. Voilà ce que nous dit Valérie Pécresse, manifestement très optimiste dans une interview au journal Le Parisien. La présidente de la région Île-de-France qui assure par ailleurs que la ligne 14 du métro parisien prolongée sera prête fin juin. Mais qu'en est-il de l'autoroute A13 fermée depuis 10 jours entre Paris et Vaucresson à cause d'une fissure provoquée par un mouvement de terrain? L'axe ne pourra pas rouvrir au 1er mai comme prévu. Il va donc encore falloir s'armer de patience, Inès Zegloul.
17 km seulement séparent ce résident des Yvelines du centre de Paris. 17 km, mais la 13 fermée.
Ça me fait un très gros détour.
Car Wessigny a dû revoir tout son itinéraire. Désormais, il emprunte des départementales, coupe à travers les centres-villes et chaque matin, pour aller travailler, ce n'est plus une demi-heure de trajet, mais...
1h3/4. Je dors 5h30 quoi, maintenant. J'arrive très fatigué au travail.
Des axes saturés où se déversent les usagers de la 13 par choc contre par choc.
Pour être à l'heure, il faut que je parte vers aller 6h30.
Alors Jérémy a trouvé une solution.
Oh, ça serait trop compliqué, ça serait trop la galère. Donc je me suis dit, non, je vais télétravailler pour que ce soit plus simple.
Oui, mais alors, jusqu'à quand? Car tous réclament une réouverture rapide, mais Walid Mouali, spécialiste des infrastructures routières, n'y croit pas.
Les fissures, elles ont évolué. Elles ont donné lieu à des micro-fissures par endroit. Là, pour le coup, il y a une petite inquiétude à avoir. Je pense qu'il ne faut pas être très optimiste quant à une réouverture prochaine de cette portion d'autoroute.
Des experts se réunissent en tout cas aujourd'hui pour envisager une nouvelle date de reprise du trafic.
Et pour en parler, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, sera l'invité d'RMC à 7h40. L'occasion aussi de revenir sur la demande de plusieurs élus, dont Valérie Pécresse, qui réclame des compensations financières. Mais avant les automobilistes, l'État vole à la rescousse d'Atos. Le géant français de l'informatique se porte mal. L'État lui avait déjà promis un prêt de 50 millions d'euros et il est désormais question de racheter une partie des activités de l'entreprise. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé hier sur LCI.
Il y a dans Atos un certain nombre d'activités qui sont stratégiques pour la nation française.
en matière de cybersécurité, en matière de cybercalculateur, en matière de nucléaire. J'ai déposé ce week-end une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités de souveraineté d'Atos. Car c'est le rôle de l'État de défendre les intérêts stratégiques d'Atos et d'éviter que des technologies qui sont sensibles, qui sont décisives en matière de supercalculateurs ou en matière de défense, puissent à n'importe quel moment dépendre d'intérêts étrangers.
C'est aujourd'hui que le Hamas doit donner sa réponse à la proposition de trêve à Gaza avec Israël, et l'un de ses responsables a déjà indiqué qu'il n'y avait aucun problème majeur sur cet accord. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa tournée au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite, il se rendra en Jordanie puis en Israël. Il est 7h05. Faut-il entrevoir une porte ouverte à la légalisation en France de la GPA, la gestation pour autrui, au cœur d'une nouvelle polémique depuis plusieurs jours lancée par Marion Maréchal, la candidate Reconquête, après l'annonce de la GPA du styliste Jacques Mus et de son compagnon. En tout cas, au sein de la majorité, des voix commencent à s'élever, y compris celle de la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry. Il faut sortir de l'hypocrisie, c'est ce qu'elle a dit hier sur RMC, sauf qu'on est loin, Hélène Terzian, de la position d'Emmanuel Macron.
C'est son avis personnel, la cause lui tient à cœur. Au sein de l'exécutif, la prise de position de Sarah El Haïry est vue avec bienveillance, comme le confie ce conseiller macroniste, mais gare à ne pas aller trop loin. Elle en fait trop, lâche le même, elle sait que c'est un sujet sensible. La ministre veut ouvrir le débat, mais sait que sa voix est dissonante, sans l'appui de ses anciens collègues, Olivier Dussopt, Clément Beaune, qui s'était ouvertement prononcé pour, et ce, malgré la ligne du président. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, l'a rappelé la semaine dernière.
La ligne est claire, et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, les GPA n'est pas autorisée en France.
La ligne, c'est pas de GPA, point barre, enfonce un conseiller de l'exécutif, et il n'y a aucune chance que le débat s'ouvre, balaye un autre. Quelques députés de la majorité se prononcent hors micro pour une GPA dite éthique qui considère la place de la mère porteuse, peut-être sans rémunération, mais c'est loin d'être une priorité, le sujet est trop clivant, et ce n'est pas le moment, insiste une parlementaire, au moment où le texte sur la fin de vie est sur le point d'être examiné.
7h06, en football, le PSG peut dire merci Lyon grâce à la victoire de l'OL 3-2 sur Monaco. Les Parisiens ont été sacrés hier champions de France pour la 12e fois de leur histoire. Avec nous pour en parler ce matin, Loïc Braillet. Bon, Loïc, c'est un train qui arrive à l'heure, mais c'est surtout une bonne chose de faite avant la semaine cruciale qui démarre pour les Parisiens.
Oui, Élise, alors être champion sans jouer, ce n'est pas forcément ce que les Parisiens avaient prévu, mais c'est idéal pour la confiance avant d'aller défier Dortmund dans deux jours. Dortmund qui a perdu samedi 4-1. Les Allemands vont accueillir dans deux jours une équipe en pleine confiance, un club 12 fois champion de France, un record, et qui a remporté hier le 50e titre de son histoire. Paris est toujours en lice donc pour signer un quadruplé historique. Il a fait la moitié du chemin, déjà vainqueur du trophée des champions, et donc désormais du championnat. Place maintenant aux demi-finales de Ligue des champions avant la finale de la Coupe de France face à Lyon. Quoi qu'il arrive, les supporters parisiens peuvent déjà cocher la date du 12 mai pour voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers soulever le trophée de champion de France lors du dernier match au Parc des Princes de la saison face à Toulouse.
Merci Loïc Braillet. L'autre bonne nouvelle de ce week-end, c'est Brest qui sera européen la saison prochaine après sa victoire spectaculaire 5-4 face à Rennes. De son côté, l'OM se replace dans la course à l'Europe en battant Lens 2-1.